Je suis avec Olivier Texier aux Utopiales de Nantes qui est en train de faire une dédicace pour son ouvrage Croisière Cosmos, sorti donc collection Shampoing chez Delcourt. Bonjour.
Bonjour.
Cette idée complètement farfelue d'avoir un vaisseau spatial qui a récupéré un exemplaire de chaque espèce extraterrestre, vous est venue comment ?
Ça, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, ça m'est venu. Je crois que c'était un jour où je me promenais à la mer, et puis voilà, je mangeais une crêpe dans un bar sur le bord de mer, et puis j'ai pensé à ça. Bon, des fois, les idées se promènent comme ça, on les capte ou ça sort tout seul, mais sans forcément. On n'a pas besoin de s'asseoir à une table et puis de se prendre la tête dans les mains et puis de réfléchir en se disant il faut absolument que je trouve une idée. Des fois, ça nous tombe dessus comme ça, un peu par hasard, et puis on les note. Puis bon, de temps en temps, il y en a une où on se dit tiens, celle-là est un peu plus intéressante que les autres. Ça peut être un point de départ pour une bande dessinée, par exemple.
Et la concrétisation s'est faite comment ? Vous avez commencé avec quelques planches que vous avez envoyées à votre éditeur ou est-ce que vous avez attendu d'avoir presque un travail final de fait ?
En fait, j'avais commencé, donc quand j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, tiens, ça faisait longtemps que j'avais envie de refaire une bande dessinée de science-fiction. Donc j'ai commencé, au départ, j'ai fait des BD en une planche, je voulais proposer à la revue de Chaux de Glénat, que je lisais beaucoup à l'époque. Et puis donc j'avais fait comme ça, à partir de cette idée-là, des gags en une page. Et puis donc j'ai envoyé à Chaux, qui a trouvé ça très mauvais, donc qui m'ont dit non, c'est pas possible. Après je l'ai envoyé à d'autres éditeurs, ils ont tous trouvé ça mauvais, ils m'ont envoyé des réponses négatives. Et donc le coup de chance, c'est que j'ai rencontré à Nantes quelqu'un qui venait de s'installer, qui est Fred Blanchard, qui était directeur de collection à Delcourt, pour série B, la collection de science-fiction. Donc je lui ai montré, il m'a dit ouais non ça me plaît pas, c'est nul. Par contre en ce moment il y a Lévi Strandheim qui est en train de monter une collection chez Delcourt qui s'appelle Shampoing et envoie lui, ça peut lui plaire. Donc j'ai envoyé le projet à Lévi Strandheim qui m'a répondu en me disant que c'était pas bien, que ça lui plaisait pas du tout. Mais par contre il m'a dit j'aime bien quand même les personnages, j'aime bien l'univers. Et puis à l'époque je travaillais pour Le Psychopathe, puis il lisait Le Psychopathe, donc il trouvait ça sympa. Enfin ce que je faisais, il aimait bien mon boulot. Il m'a dit si c'est jamais t'en ferais une histoire complète, une grande aventure, moi ça m'intéresse pour la collection Shampoing. Donc du coup j'ai remanié le projet pour en faire la BD qui existe actuellement. C'est-à-dire ce point de départ, mais que ce soit des gags en une page, c'est une grande aventure avec un début, une fin, du suspense. C'est ce que voulait Lévis.
Est-ce que vous avez fait un storyboard d'abord ?
En fait, moi, l'idée pour cette bande dessinée-là, c'était de partir sur quelque chose d'improvisé. Parce que avant de faire cette BD-là, moi, je faisais surtout des strips, donc des histoires en 3 ou 4 cases. C'est surtout ça mon format de prédilection en matière de récits dessinés. Et j'aime bien improviser les histoires, parce que si tout est écrit, surtout là, j'ai 150 pages. Si tout est écrit, du coup, je trouve ça un peu... Bon, après, ça devient un peu monotone, en fait, de dessiner les pages les unes après les autres, alors qu'on sait exactement comment l'histoire va se finir. Donc, j'aime bien l'idée de commencer à avoir un point de départ, de savoir à peu près où je vais, et puis d'improviser. Donc, du coup, le storyboard, je le faisais à fur et à mesure. C'est-à-dire, je faisais une page de storyboard que je dessinais après au propre, que j'ancrais. Mais quand j'avais fini ma page, j'attaquais une deuxième page de storyboard sans savoir vraiment... Donc, il n'y avait pas vraiment... c'est une BD qui n'a pas vraiment construite comme une BD classique. Où là, c'est vraiment improvisé à petit à petit. C'est vrai que c'est les personnages qui, des fois, une fois qu'ils ont leur tempérament, leur caractère, c'est un petit peu eux aussi qui déterminent comment va avancer l'histoire. Et puis, est-ce que tel personnage va, dans telle situation, naturellement répondre à un truc, sans forcément que j'ai besoin de beaucoup y réfléchir. Donc il y a une grande part d'improvisation dans le récit.
Le fait de ne pas avoir de héros ou de personnage principal... C'est dû à quoi ? C'est parce que justement, comme tout le monde est un peu livré à lui-même du fait de la non-présence d'humains dans le vaisseau, on n'avait pas de chef ou de leader charismatique qui pouvait se dégager ou...
C'est un petit peu ça, puis j'aime bien aussi l'idée qu'il n'y ait pas de personnage un peu manichéen, c'est-à-dire qu'un héros, soit qu'il y a un personnage qu'on voit un peu plus, qui est un petit peu plus valeureux que les autres, qui est un peu plus curieux, mais pour autant, il n'est pas forcément héroïque tout le temps, et j'aime bien cette idée que les gens sont un peu ambivalents, qu'il y a des fois où on est un peu... on peut sentir un peu héroïque, d'autres fois un peu minable et tout ça, et même dans les méchants, entre guillemets, de cette aventure-là, ils ont quand même des bons côtés, ils ont quand même des côtés attachants, ou des valeurs auxquelles ils croient, même si c'est des mauvaises valeurs, et donc j'aime pas l'idée qu'il y ait un héros monolithique, que tout le monde est un petit peu, sa part de défaut, sa part de qualité, et puis effectivement, vu que l'histoire, c'est des extraterrestres qui se retrouvent dans un grand vaisseau, qui ont été enlevés par les hommes petit à petit, puis ils se retrouvent tous un jour, un matin, et les hommes ont disparu, il n'y a plus personne. Donc il va falloir déjà qu'ils comprennent pourquoi les hommes ont disparu, et puis est-ce qu'ils veulent rentrer chez eux. C'est un petit peu l'idée de base. Et effectivement, c'était sympa d'avoir comme ça une foule d'extraterrestres qui ont tous des formes très différentes, parce que là, il y en a des milliers dans l'histoire. Et voilà, qu'il n'y en ait pas un ou deux qui mènent un petit peu le truc, mais que tout le monde essaye, ils sont un petit peu en collectivité, quoi. Ils se retrouvent là tous ensemble à pas trop savoir comment piloter le vaisseau, donc ils s'entraident et puis ils essayent d'y aller, donc du coup ça se chamaille un petit peu, ils sont pas forcément d'accord sur tout, mais comme ça, il y a une vie en collectivité où ils essayent quand même d'avancer tant bien que mal.
Graphiquement parlant, qu'est-ce qui vous a inspiré justement pour faire autant de créatures différentes ?
Alors là, je sais pas trop, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. En fait, il y a un truc qui m'énerve dans les BD de science-fiction, c'est quand les extraterrestres ont deux bras, deux pieds, une tête, avec un cerveau, deux yeux, une bouche. Je trouve ça un peu bête, parce que je trouve que la nature est quand même beaucoup plus prolifique que ça. Et quand on regarde par exemple des images d'insectes ou de poissons qui vivent dans les abysses, il y a quand même des formes qui sont incroyables. Alors, si jamais on découvre un jour des espèces extraterrestres sur d'autres planètes, à mon avis, ils auront des formes qui seront totalement différentes de ça. Donc j'aime bien cette idée-là, que je trouve ça plus crédible en fait d'avoir des extraterrestres qui ont des formes bizarres. Et puis pourquoi pas, une tête qui vole avec juste un œil et une bouche. On peut très bien imaginer ça, ou un extraterrestre qui a trois pieds, ou qui n'a pas de cerveau, ou qui est juste un cerveau qui flotte. Bon, moi je trouve ça amusant, et ce qui me plaît aussi, c'est l'idée qu'ils aient tous des formes très très différentes, qu'ils ne soient pas du tout humaines, mais qu'au final, ils soient tous humains dans le fond. Ils aient ce que je disais tout à l'heure, des atouts, des défauts, des qualités, et que finalement c'est un petit peu le sort de chacun de nous, on est tous très différents dans nos apparences et tout ça, mais que... Bon, quand on voyage un petit peu, on se rend compte que les gens sont partout les mêmes, finalement. On a à peu près tous les mêmes espérances, les mêmes désirs, les mêmes faiblesses, comme ça, les mêmes bassesses humaines. Et que ça me plaît, cette idée-là. Donc, c'est pour ça que les extraterrestres sont aussi différents, mais finalement, j'espère qu'ils sont quand même humains et attachants malgré tout, ouais, malgré leur forme.
Sans dévoiler la fin de l'histoire, le bougre atomique, ça sort d'où, ça? Parce que c'est quand même une créature plus que surprenante.
Eh bien, je sais pas trop. Effectivement, on peut pas trop en parler pour pas dévoiler l'histoire, mais moi, je trouve ça marrant d'écrire atomique déjà en deux mots, le brugle atomique, ça me faisait assez rire. Et puis, le point de départ de ce personnage-là, c'était un truc qui me fascinait, dont on a un petit peu parlé il y a pas longtemps, l'idée d'un vaste accélérateur de particules qui a été créé en France, d'ailleurs. Et puis, il y a des gens qui sont à la mer en se disant, on est en train de faire une expérience. Si ça se trouve, il y a une probabilité qu'il y ait un film et qu'il existe, comme quoi tous les atomes de la planète Terre vont se coaguler les uns aux autres, parce qu'un atome, c'est fait de vide, et la matière est faite de vide. Et il y avait un risque comme quoi les atomes, s'ils se soudent, du coup, la Terre entière et tous ses habitants et tout ce qu'il y a dessus se retrouveraient à l'état de boule de fer, comme ça, d'une dizaine de centimètres de diamètre. Si on enlève tout le vide, c'est ça, quoi. La Terre, c'est 10 centimètres d'un métal qui est proche du fer. Et ça me fascinait, comme ça, l'idée d'atomes qui se coagulent les uns aux autres. Donc voilà, à la base, il y avait quelque chose comme ça d'assez flippant. Mais c'est rigolo aussi que la personne qui soit capable de créer ça ou qui a ça en elle soit un petit extraterrestre débile avec des grandes dents et un œil unique. Et puis, je trouve ça marrant, le côté, la dangerosité du truc avec l'aspect de la créature.
Ouais. Est-ce que vous pensez faire soit des suites, soit des préquels parce qu'il y a tellement de personnages à l'intérieur que vous pourriez faire même des spin-offs
Alors, c'est vrai que moi, là-bas, je suis très attiré par tout ce qui est science-fiction et par humour absurde avec des petits personnages. En général, je fais des récits qui sont beaucoup moins grand public. J'aime bien faire des choses noires, des fois un peu trash, un peu à la limite, comme ça. C'est quelque chose qui sort assez facilement chez moi en matière de BD. Donc là, c'est quand même un travail grand public pour Delcourt, qui ça m'a beaucoup plu, mais c'est pas 100% moi non plus. Donc, il faut que je trouve un équilibre. Donc, je pense que là, je vais pas en faire un tout de suite, mais a priori, vu que l'histoire plaît et puis que l'album marche bien, enfin les gens sont contents. Donc du coup, je suis très fier d'avoir réussi à faire comme ça un album grand public qu'on peut offrir à Noël à ses petits enfants. Donc je pense que je vais continuer, mais ça sera peut-être pas une suite directe parce que là l'album il se termine comme ça. Il n'y a pas vraiment besoin de suite, mais ça sera peut-être quelque chose qui se passe 10 ans après avec les personnages qui sont encore là, qui ont vécu des choses et puis qui ont une nouvelle. Ça, faut que je trouve une nouvelle idée ou un nouveau point de départ. Mais quand ça me viendra, je pense que j'en ferai une autre. Parce que je les aime bien, je les trouve attachants et je suis à l'aise avec eux, donc ça me plaît. L'idée de continuer me plaît bien. Ouais.
Actuellement, vous travaillez sur quelque chose ?
Alors là, en ce moment, justement, ce que je disais tout à l'heure, équilibrer un petit peu entre un truc, des choses un peu plus adultes, un peu plus trash, et puis des BD comme ça, grand public, avec des personnages de crétins et tout ça. Donc là, en fait, je suis parti sur un petit peu comme Trondheim avait fait pour Lapino, une BD improvisée de 500 pages. Donc, je sais pas si je vais arriver à 500 pages, mais en fait, c'est un feuilleton. Donc là, ce qui est intéressant, ce qui m'amuse, c'est d'utiliser Internet pour ça. Donc tous les jours, je mets un nouvel épisode. Donc un épisode, c'est 3 cases. Hein. Et puis, donc au bout de 4 jours, ça fait une page. Et ça s'appelle La peur du vide. Donc on trouve ça sur Internet. Je crois que c'est http lapeurduvide.blogspot.com. Et voilà, donc il y a une aventure, ça se passe dans une ville un peu post-apocalyptique, il y a des zombies, il y a des catcheurs, il y a plein de personnages dans tous les sens. Et pareil, il y en a certains, donc il y a pas mal d'êtres humains qui sont un peu pauvres comme ça, avec des vêtements un peu loques, un peu délabrés. Et puis tu as aussi des personnages qui ont pas de bras, pas de jambes, ou juste un bras. Donc c'est essayer de mélanger un petit peu tout ça, et puis vraiment faire un feuilleton qui va, j'espère, durer un an ou deux. L'idée, ce serait d'arriver à 500 pages, ça serait bien. Donc voilà, là ça me tient beaucoup à cœur. Puis là, pareil, c'est complètement improvisé, c'est complètement crétin, débile, mais avec peut-être plus une portée un peu politique derrière, où il y a des guerres de religion, il y a des choses comme ça. J'essaye aussi de caser des préoccupations un peu de la société contemporaine, donc voilà, ça s'appelle La peur du vide. J'espère qu'il y aura du monde à voir, parce que l'idée, le principe du feuilleton, c'est rigolo aussi si c'est un peu réactif, s'il y a des commentaires et tout, ça peut être amusant, un peu excitant, de peut-être pourquoi pas faire évoluer la BD si les gens me disent « Ah non, ce personnage, faut pas le tuer, il est trop bien », ça peut être rigolo comme ça. Donc voilà ce qui me passionne en ce moment, mais je pense que d'ici début de l'année prochaine, je ferai d'autres projets, parce que j'ai aussi un projet avec Johan, qui est le dessinateur là, qui va peut-être reprendre Spirou bientôt. Et donc là, ça s'appelle Les Captains, c'est une série de super-héros, pareil, un peu débile, et qui sort là chez Le Lombard l'année prochaine. Donc voilà, c'est un deuxième projet, puis je pense que je refais un truc personnel, style Croisière Cosmos en 2009, très certainement. Ouais.
Votre impression sur les Utopiales ?
Bah moi je suis nantais, donc j'aime la SF, donc c'est un festival que je connais depuis le début et que j'aime beaucoup. Voilà, c'est rigolo de voir que l'Heroic Fantasy, au départ c'était vraiment un festival SF, et voir que l'Heroic Fantasy, petit à petit, ça devient un festival de l'imaginaire, et parce que c'est des choses qui sont plus dans l'air du temps que la science-fiction. C'est un peu pour ça que j'avais fait un space opéra, parce que j'ai du mal à en lire. Je trouve qu'au cinéma, il n'y en a pas tant que ça. En BD, il y en a très peu. Donc c'est, j'aime bien. Donc pour ça, je me suis dit, bon, allez, je vais faire la BD que j'ai envie de lire. Mais bon, je me sens à l'aise. Puis je trouve qu'il y a aussi pas mal de gens qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Voilà, quand on est ado, qu'on est passionné d'imaginaire et tout ça, des fois, on a du mal à se situer un petit peu, j'allais dire, dans le monde réel, pour avoir été comme ça, je sais ce que c'est. Et là, c'est marrant. On voit des gens qui osent se déguiser un peu et tout ça. Je trouve ça très touchant. Je suis vraiment, pour ça, je suis content d'être là. Ouais. Ouais.
Est-ce que vous travaillez en musique ?
J'écoute la radio, alors j'écoute France Culture, ce qui est pas très sexy. Non, j'arrive pas, je suis pas très musique. Ouais, j'aime bien les radios où ça parle en fait. Donc je me suis un peu lassé de France Inter, mais France Culture ou autrement les radios nantaises, style, donc il y a Alternante, Jet FM. Ça, Jet FM, j'aime bien aussi écouter. Il y a des choses, la musique un peu expérimentale, j'aime bien quand il y a des bruits, des sons ou des choses un peu bizarres à la radio. Je préfère ça largement à la pub, donc je suis assez fan de radio, j'ai pas la télé, mais je suis un gros consommateur de radio quand même.
Est-ce que vous avez une idée de bande originale à écouter avec Croisière Cosmos ?
De bande originale ? Bon, les Star Wars, tout le monde les connaît par cœur, alors c'est pas... J'aime bien la bande originale de Dune, qui était un vieux film de David Lynch qui avait pas trop marché, c'était Toto qui l'avait fait. Je trouve qu'il y a des trucs sympas. Pareil, la bande originale d'Eraserhead, le premier film de David Lynch, il y a pas mal de sons, de bruits comme ça. Et puis il y en a une, bon, pareil, ça c'est plus Heroic Fantasy, mais la bande originale de Conan le Barbare est vachement épique et tout. Ça, j'aime bien, Conan le Barbare, je suis assez... Oh, faut le lire plus que le film, et ça va être quand même très bien, mais le lire, c'est encore beaucoup mieux. Mais voilà, je pense que même si c'est pas de la SF, on peut lire celle-là. Écouter celle-là, on sera pas déçus, à mon avis.
Quelque chose que vous aimeriez rajouter ?
Eh bien, non, bah, j'espère que les gens apprécieront la petite croisière que je leur propose. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire.
Merci beaucoup.
Merci à vous.